et bienvenue dans In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je vous présente dans chaque épisode des personnes inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie et qui nous partagent leurs meilleurs conseils pour y arriver à notre tour. Dans cet épisode, je reçois Fanny Auger, dont les multiples activités la rendent difficile à définir. Fanny est auteure, speaker, maker, bref, c'est une créative au parcours tout aussi inspirant que son style. Avec Fanny, on parle de créativité, de trouver sa voie dans un monde où l'on doit tous avoir une étiquette, de littérature mais aussi d'indépendance, de jugement et de confiance en soi. Fanny nous livre sa philosophie de vie et l'art de ne suivre que son instinct et de vivre chaque jour sans avoir de regrets. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, ça me fait très plaisir, surtout quand vous vous abonnez et que vous laissez un avis positif, car c'est ce qui me permet de continuer. Alors, bonne écoute à tous et à très vite dans In Power. Bonjour Fanny.
Bonjour Louise.
Alors, j'ai essayé de te décrire dans l'introduction de l'épisode, mais tu as une activité qui est tellement plurielle que c'est limite impossible de trouver un terme pour te définir. J'ai pensé à Creative Mind ou Maker, mais je me suis dit qu'au final, le plus simple, c'était peut-être de te demander.
C'est une excellente question et je crois que j'ai passé des années à essayer de me décrire. Dès le début de ma carrière, quand j'avais un job plutôt classique d'ailleurs, j'avais déjà du mal à me décrire parce que je ne me sentais pas cantonnée à un titre qui peut-être est un peu limitant sur une carte de visite. Donc du coup aujourd'hui, ce qui est génial avec l'âge, hein, c'est que finalement tu n'as plus trop besoin de te décrire. Ouais. Tu peux raconter ce que tu veux. Ouais. Moi, ma carte de visite préférée, il y a juste écrit mon nom, mon prénom, un email Yahoo et mon téléphone. Comme ça, je peux me présenter comme écrivaine. J'ai publié mon premier ouvrage sur l'art de la conversation à la française l'année dernière. Je peux me décrire comme... c'est difficile d'ailleurs de mettre
des étiquettes. Là où il n'y en a peut-être pas, en fait.
Ouais. Je suis entrepreneur, ça c'est certain, depuis maintenant 7 ans. J'ai fondé The School of Life à Paris, qui est une petite école de la vie pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. J'anime beaucoup de confs, de talks, d'ateliers sur l'art de la conversation, sur la créativité, sur la résilience, sur tout ce qui est soft skills en fait, les compétences émotionnelles dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je fais ça en entreprise ou pour le grand public. Et puis à côté de ça, je fais beaucoup de conseils pour des marques ou des entreprises et des startups. Du conseil en recrutement, mais aussi du conseil sur les marques stratégiques.
Donc, c'est pluriel.
Un peu long.
Et est-ce que quand tu étais petite, tu te disais déjà que tu allais être une touche-à-tout comme ça? Ou est-ce que à l'époque, tu pensais que tu allais faire un métier et que tu allais suivre toute ta vie
En fait, quand t'es petit, c'est difficile parce que tu vois l'exemple de tes parents. Le monde était différent. Moi, j'ai grandi dans les années 80, donc je suis un tout petit peu plus vieille quand même. Moi, j'arrivais pas justement à me projeter sur un monde mono-job et me dire « Ah là là, je vais faire ce job-là toute ma vie ». Donc, j'avais des crises d'angoisse, en fait, étant ado, en me disant « Mais comment je vais faire pour trouver ma place et pouvoir exprimer qui je suis à ma manière et façonner finalement le job de mes rêves ?» Parce que s'il n'existe pas, il faut l'inventer.
Ouais. Hein, c'est une belle façon de voir les choses qu'on nous dit sûrement passer à l'école d'ailleurs. Et du coup, après tes études, je sais que tu es entrée dans un grand groupe et que tu as eu un peu de mal à trouver ta voie. Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est justement difficile de trouver rapidement sa voie et d'être épanouie dans notre travail?
Je pense qu'en fait, on est dans un monde qui nous demande d'être des couteaux au Pinel, d'être des spécialistes, alors qu'on se sent tous un peu couteau suisse. Et c'est là, à mon avis, d'où vient le problème. C'est-à-dire que pendant longtemps, les entreprises, pour recruter par exemple une personne dans les ressources humaines, il fallait avoir fait des études en ressources humaines, des stages en ressources humaines et avoir tout le CV parfait qui coule de source. Je pense que le monde est en train de changer. Les entreprises n'ont que le mot « transformation » à la bouche. Ouais. D'une entreprise à l'autre, ça dépend ce que ça recouvre en réalité. Mais en tout cas, le mot « transformation », c'est quelque chose qui les habite toutes et elles sont toutes en train de se poser de graves questions, de lourdes questions pour se remodeler en profondeur. Et du coup, je suis très surprise parce qu'elles regardent toutes du côté des startups. C'est un peu la mode aujourd'hui. Tout le monde doit avoir monté sa startup, etc. Mais aussi vers des profils pluriels, justement des profils plus couteau suisse avec des multi-compétences. Et je trouve ça intéressant d'aujourd'hui recruter plus sur la personnalité et le potentiel de la personne que finalement des gens pas rigolos qui auraient fait ça toute leur vie. et qui vont du coup avoir déjà des automatismes et qui vont pas être créatifs sur le moyen, sur le long terme, out of the box et innovants pour vraiment changer, transformer la boîte en profondeur.
Ouais. Donc, comment tu penses qu'on peut justement repérer ces personnes ? Est-ce que tu penses que du coup, on aura plus de CV bientôt, qui décrit un peu toutes les étapes par lesquelles on est passé ? Est-ce que tu penses que ça se jouera juste à un entretien de personnalité ou, parce que ça peut être difficile en fait de cerner rapidement une personne et son potentiel.
Alors moi, c'est ce que je fais. Je recrute depuis maintenant 8 ans pour la startup My Little Paris. Et c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que la plupart du temps, les écoles, je ne les connais même pas. Et je m'en fiche un petit peu. D'ailleurs, je suis plus sensible à des parcours atypiques. Quelqu'un qui a fait une école de graphisme d'abord et qui ensuite a repris ses études et est passé par un IAE. Ou... Je m'en fiche un peu de la carte de visite de l'école. Mais c'est plus la capacité de la candidate à me surprendre. Et en fait, finalement, les candidatures, on les passe très très vite au peigne fin. On a envie d'être surpris, d'avoir un ton frais et pas quelque chose de justement trop dans la boîte.
Ouais.
On cherche vraiment et on le sent dès l'email en fait, qui pète ou pas. Quand on reçoit des emails,
c'est
on
fou,
sent la personnalité.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, au contraire, c'était les personnes qui rentraient le plus dans le moule, entre guillemets, qui avaient le plus de chance. Et aujourd'hui, on cherche justement les personnes qui sortent du lot, qui ont ce petit quelque chose en plus.
Ouais.
Ouais, qui n'était vraiment pas le cas avant.
Il y a un peu un truc sur le rapport à l'échec aussi, en fait, se dire que si on recrute quelqu'un qui est pile dans le job, dans la boîte, c'est super sur le court terme parce que la personne ne va pas faire d'erreur, elle ne va pas coûter de l'argent à la boîte, etc. Mais sur le moyen et long terme, ce n'est pas elle qui va disrupter et ce n'est pas elle qui va amener vraiment une valeur ajoutée pour la boîte. Donc du coup, c'est pour ça qu'on essaye, en tout cas nous, dans la startup My Little Paris, et quand j'en parle avec d'autres amis qui ont des startups, c'est vraiment les profils qu'ils recherchent. Et j'ai l'impression que dans les grandes boîtes, petit à petit, ça commence aussi à par capillarité finalement
ouais,
fonctionner de cette manière
en fait. Et du coup pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient du mal à trouver justement leur voie, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre dès aujourd'hui pour y voir plus clair?
Alors, j'ai deux petites citations, parce que j'adore les citations, je fonctionne beaucoup comme ça. La première, c'est « Connais-toi toi-même ». C'était écrit sur le frontispice du temple de Delphes, hein, donc j'ai rien inventé depuis l'Antiquité. Je pense que c'est le travail d'une vie de bien se connaître, et Dieu sait qu'à 20 ans, 22 ans, c'est pas facile de savoir exactement pourquoi on est faite, et moi-même, j'en avais absolument aucune idée, mais je pense qu'il faut tester, faut se tester et faut se mettre en mouvement, faire des petits pas, essayer un petit job, un stage, des rencontres, beaucoup beaucoup de rencontres, c'est vraiment comme ça qu'on évolue je pense et qu'on grandit, mais du coup se mettre en mouvement et essayer de se connaître mieux. Et la deuxième chose c'est une citation de Cocteau qui me parle beaucoup, c'est « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Moi, je pense qu'on est tous spéciaux, on a tous un univers, un historique, un background, etc. Et puis des petites, comment dire, aspérités. Et puis des vulnérabilités, et puis des failles aussi, on n'est pas parfait. Personne n'a envie de bosser avec Madame Parfaite, ce serait tellement horripilant. Mmh. Et je pense qu'en fait, il faut bien se connaître et savoir aussi qui on est. Et ce qu'on reproche, moi, ce qu'on me reprochait dans mon tout premier job, dans une très grande boîte et tout, aujourd'hui, on vient me chercher pour ça. Et je travaille avec la même boîte, mais pour faire des cours de créativité, etc. Moi, j'ai pas changé. Moi, j'ai pas changé, mais c'est juste que le monde est plus prêt à entendre ce genre de choses.
Ouais.
Peut-être que si aujourd'hui, je commençais ma carrière là-bas, je cartonnerais, alors qu'à l'époque, je me sentais comme un petit vilain petit canard.
Ouais, et puis aussi le fait que peut-être maintenant, tu fasses plus justement partie du moule. Ils ont appris à te regarder avec un autre regard. Je pense qu'il y a beaucoup une question de regard. Moi, je pense aussi l'âge joue beaucoup et si jamais on avait, je sais pas, plus d'opacité sur les recrutements, qu'on ferait moins attention à l'âge et qu'on regarderait juste en fait l'output, peut-être qu'il y aurait on laisserait plus de chance à mon avis à des personnes à qui aujourd'hui on leur intéresse moins quoi.
Ouais, peut-être.
Parce qu'en fait t'es devenue indépendante maintenant donc...
Ouais, ça fait 7 ans.
Mais aussi, qu'est-ce que ça a changé pour toi ?
En fait, pour moi, c'était un peu une évidence. C'est-à-dire que je me voyais me faner. Donc, après mon premier job, je suis partie vivre à Dubaï pendant 5 ans et demi. J'ai une carrière incroyable. À 30 ans, je gagnais excessivement bien ma vie. J'avais des responsabilités géniales. Je manageais 56 boutiques pour les plus grandes marques de luxe dans toute la région Moyen-Orient. J'avais un job de rêve, une bagnole de rêve, un appart de rêve et une vie de rêve. Mais moi, c'était pas mon rêve à moi. J'ai jamais été matérialiste. C'est sympa de se balader en Chanel et je ne sais quoi. Mais c'était pas mon rêve à moi. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est très bien, j'ai tiqué la case dès mes 30 ans, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour rassurer tout le monde, etc. Maintenant, je peux m'autoriser. Et je pense que ça, c'était important pour moi, c'était ne pas subir ma vie et me faner dans un bureau parce que je m'éclatais dans mon job, mais toutes les facettes. Il manquait un truc pour m'exprimer vraiment. Et du coup, je l'ai créé, je l'ai façonné, mon job, et ça a pris des années pour vraiment trouver ma voix X et ma voix E. C'est assez intéressant, d'ailleurs.
Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les deux?
Mais en fait, j'ai une amie qui est chanteuse lyrique, Gwendoline, et qui m'a parlé du triangle africain qui est vraiment au cœur de ta poitrine et qui te permet de trouver ta voix. Et quand j'ai commencé les cours de chant, ma prof de chant m'a dit « Toi, t'as trouvé ta voix ». Parce que justement, il y a une espèce d'alignement, comme ça, on est peut-être à la verticale de nous-mêmes. Et voilà, les gens qui parlent avec des voix de crécelle, parfois, ça m'horripile dans les restaurants, mais je me dis, la pauvre, peut-être qu'elle ne s'entend pas. S'entendre aussi, s'écouter, c'est important. Et peut-être qu'elle n'a pas trouvé sa voix X et peut-être sa voix E.
Intéressant, c'est un concept donc on ne parle pas assez, je pense.
Mais c'est intéressant d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, si jamais ils passent des entretiens, essayer d'avoir conscience de sa voix. Ne pas parler trop fort, hein, s'adapter au rythme de la personne qui vous interviewe, respecter les silences et ne pas avoir peur des silences, justement.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que, en fait, je ne sais pas quel rapport on a avec notre voix. Moi, je sais qu'on m'a très souvent dit que j'avais une voix grave, une voix de radio et que ça pouvait en dire long sur une personne. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on peut s'arrêter à ça, quand même. Tu vois, à quel point elle nous définit, à quel point on la définit.
C'est intéressant, et je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est une question très intéressante, effectivement.
On ouvre le débat.
Non, mais en plus, quand tu sais comment jouer avec ta voix, et quand tu es bonne au téléphone, ça sert toute ta vie, c'est un super atout. Moi, je disais toujours aux personnes qui travaillent dans mes équipes, le sourire, ça s'entend même au téléphone.
Oui, c'est vrai. Oui. Très vrai.
Et du coup, tu peux décrocher un entretien d'embauche, tu peux décrocher un contrat, etc., si tu es bonne au téléphone. Moi, j'étais hôtesse d'accueil et standardiste à la radio Énergie pendant tout un été quand j'avais 22 ans, où je décrochais le téléphone 500 fois par jour à dire « Groupe Énergie, Fanny, bonjour !» Et en fait, ça apprend à se démerder au téléphone. Et aujourd'hui, je suis capable effectivement de faire des merveilles juste avec un coup de fil parce que je sais jouer de ma voix, du ton, du volume...
C'est quoi le petit job, justement, qui t'a, au final, le plus appris?
Très bonne question. Je pense que tous mes petits jobs m'ont beaucoup appris. Ils m'ont appris une chose, c'est l'humilité. C'est qu'il n'y a pas de vilain boulot, de sale boulot, en fait. Chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut, surtout. Et je pense que ça t'apprend l'humilité quand tu te fais un peu traiter très mal par les clients d'un grand magasin, par exemple. Quand tu distribues des prospectus à la sortie du métro pour le Printemps Nation, par exemple, à 7h du matin. Toute ta vie, tu gardes cette manière de regarder les gens qui travaillent, qui ont ces petits jobs et qui peut-être n'ont pas le choix.
Le fait d'être passé par là, ça crée... Ouais.
Et pour moi, c'est très, très... Aujourd'hui, justement, je ne regarde pas forcément les CV et les écoles. En revanche, je regarde toujours si la personne a fait des petits jobs. Quelqu'un qui a juste fait des stages parce qu'il fallait faire des stages, qui a été étudié à l'étranger, etc., j'en ai rien à faire. Vraiment, parce qu'on devait le faire. Mais par contre, quelqu'un qui va me dire « moi, j'ai fait plein de petits jobs » et ça veut dire qu'elle est débrouillarde, cette personne est débrouillarde, ça veut dire que cette personne a les pieds sur terre. Ça veut dire que elle est sortie un peu de sa zone de confort, justement, pour aller plus loin. Et pour moi, ça veut dire énormément, c'est des profils que je favorise beaucoup.
Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que tu recherches le plus, en fait, quand tu embauches quelqu'un une boîte ou pour...
Je veux des gens curieux. J'ai des gens... Aujourd'hui, on parle beaucoup de créativité, mais pour moi, avant la créativité, il y a la curiosité. J'ai des gens qui ont envie de savoir, hein, même si on ne sait jamais tout vraiment, mais qui vont aller creuser, suivre les liens, les trucs, etc., aller en bibliothèque, aller vraiment rechercher à la source, parce que le monde est plein de fake news, on ne va pas ouvrir le débat, mais voilà. Donc la curiosité, j'aime les gens smart. Alors, extraverti ou introverti, je respecte énormément les introvertis aussi, qui m'attachent beaucoup. En fait, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne qui dit pas grand-chose, mais je veux. Et puis des gens bienveillants qui ont des valeurs, parce que tu peux avoir tout le reste, parfaite, mais ça m'est arrivé d'embaucher une fois quelqu'un qui n'avait pas les valeurs de base, et en fait j'ai assumé, j'ai projeté sur elle les valeurs sans vraiment les vérifier avant.
C'est dur en même temps de vérifier des valeurs, je trouve.
C'est très dur.
Il y a pas de CV de valeurs, il y a pas de test. Moi, je pense que c'est un peu au feeling. Enfin, j'essaye aussi de pas trop m'arrêter à ça. Mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai rarement été trompée par, on peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça le feeling.
Surtout pour les valeurs. Ça, c'est très vrai. Mais en même temps, tu vois, il y a des petits signes. Par exemple, quelqu'un qui ne range pas sa chaise. Quand il est assise pour un entretien, la personne se lève, ne range pas sa chaise, ne fait pas le geste de prendre la tasse à café pour la ramener dans l'évier, ne dit pas bonjour quand elle arrive dans l'open space et qu'il y a plein de gens en train de travailler. Alors certes, on ne va pas les déranger et faire une annonce.
Il y a tout ça qui grimpe sur moi. Trop mignon.
Il est en train de te faire un bisou vraiment sur l'oreille. Il y a une photo à faire. Mais voilà. Et en fait, finalement, ça dit beaucoup de choses, tu vois. L'attention, si jamais tu es dans un café, l'attention au serveur. Est-ce qu'elle la regarde de haut ou est-ce que la personne est tout à fait sympathique avec le serveur ? Ça, c'est des toutes petites choses, mais en fait, qui en disent beaucoup.
C'est vrai. Du coup, tu te considères comme quelqu'un d'observatrice ? Parce qu'en fait, c'est assez difficile, limite, de faire la... Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre l'observation et le jugement ? C'est dur, en fait, je trouve, de faire l'un sans l'autre. En fait, c'est apprendre à observer sans porter de jugement. Parce que, par exemple, quand tu vois cette personne qui ne va pas ranger sa chaise ou qui ne va pas accorder d'importance au serveur, intérieurement, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de juger, alors qu'on sait tous que c'est quelque chose qu'on doit éviter de faire.
Non, mais je pense que l'observation, tu peux observer des choses sans avoir aucun jugement, parce que ça ne te parle pas, ou c'est juste une information que tu ne classes pas forcément, d'ailleurs, et puis tu te rappelles peut-être deux jours plus tard en disant « Ah ben tiens, c'est vrai que j'ai observé, non, mais ça peut être des choses anodines. » Alors que le jugement, effectivement, c'est caler son système de valeurs sur la personne, ou voilà. Je pense que le jugement, il faut s'en méfier, parce que souvent aussi, il est erroné, hein, c'est des petites choses dont je parle, mais voilà. Et c'est ça qui est merveilleux dans les rapports humains. Moi qui écris un livre sur l'art de la conversation, c'est qu'on est toujours étonné, on en apprend toujours sur les autres.
Et justement, j'avais une question par rapport au jugement, donc je vais la poser maintenant. C'était, est-ce que, vu que je sais que t'es quelqu'un de très singulière et qui n'a pas peur d'être qui elle est-ce que tu as quand même parfois du mal avec le regard des autres ? Parce qu'en fait, on est dans un monde rempli de jugements. Donc comment est-ce que tu le vis ? Comment est-ce que tu fais peut-être pour t'en défaire ?
Alors j'avais beaucoup plus de mal étant jeune, parce que j'avais pas d'amis jusqu'à l'hypocagne. J'étais un zèbre complètement isolé dans un collège de lycée de ZEP dans le fin fond de la Lorraine. Et j'avais pas d'amis parce que j'étais première de la classe, parce que j'étais pas comme les autres, etc. Et en fait, air de rien, passer toute ton enfance cachée dans les toilettes, en train de bouquiner parce que t'as pas d'amis, etc. Ça forge un caractère qui fait qu'après tu t'affranchis totalement du jugement. Et du coup, dans ma vie d'adulte aussi, je pense que ça m'a aidé, le fait d'être comme ça étant petite et ado, à prendre des risques et ne pas avoir peur. Parce que tu t'en fous, en fait. Ouais. De toute façon, j'étais pas populaire. J'étais pas la pom-pom girl la plus populaire du lycée.
Donc on apprend à ne plus rechercher ça, en fait.
On s'en fout. On n'a pas besoin de la validation externe.
Et qu'est-ce que tu dirais quels sont tes secrets, un peu, pour avoir confiance en toi, tes confidence builders, si on peut appeler ça comme ça?
Je trouve que c'est très personnel pour chacun d'entre nous. Pour nos auditeurs, s'il y a des gens qui veulent améliorer leur confiance en eux, moi, je leur conseillerais de sortir régulièrement de leur zone de confort. Je pense que la zone de confort, c'est un peu comme une peau de chagrin. Si tu la laisses là où elle est, en fait, elle va forcément s'étriquer, devenir de plus en plus petite. Si tu n'essayes pas des choses que tu n'as jamais faites en te disant « j'ai super peur de parler en public, mais je vais accepter de faire cet exposé ou cette presse devant tout le monde », là, tu sors de ta zone de confort, tu vas peut-être passer un sale quart d'heure ou même des jours avant à le préparer. Mais au moins, tu l'auras fait et tu vas te rendre compte que le monde ne s'effondre pas sur toi. Et donc, du coup, c'est sans arrêt essayer de sortir un tout petit peu, c'est faire des tout petits pas de côté pour étendre la zone de confiance et acquérir ensuite en confiance.
Moi, j'ai un rapport très particulier et une réflexion particulière autour de la zone de confort, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas sortir de ma zone de confort, parce que je me suis rendu compte, en fait, que c'est là où j'étais la plus épanouie. Que, en fait, quand j'en sors trop, je suis perdu, mais ce n'est même pas appréciable. Donc en fait, j'avais eu un débat sur un de mes posts sur Instagram et certaines personnes me remerciaient pour dire au contraire, parfois on est obligé d'en sortir, et parfois les gens me disaient quand même, mais tu ne peux pas progresser si tu n'en sors pas. C'est vrai qu'en fait, je pense qu'il faut savoir différencier la zone, on va dire, d'énergie optimale, où on est vraiment bien épanoui, où on aime ce qu'on fait, tout en sachant quelquefois prendre des risques et faire ce qui nous fait peur. Mais pour moi, ça doit pas non plus être du déplaisir, quoi. Voilà, moi je sais
pas
que
c'est trop violent,
tu vois, je n'aime pas l'acrobranche. Je ne vois pas l'intérêt d'aller me dire, bon, Louise, va affronter tes peurs, va faire de l'acrobranche, alors que je n'en retirerai aucun plaisir. Mais voilà, j'ai appris, je cherche encore mon avis définitif sur le sujet. J'ai appris à le nuancer, on va dire.
Mais je pense que c'est pour ça que je crois beaucoup aux petits pas. C'est pas la peine que demain, tu ailles faire de la crobranche. Mais si t'as envie de travailler là-dessus, bon, en l'occurrence, je vois pas trop l'intérêt. À moins qu'un jour, tu travailles au fond d'une tour et t'as besoin de travailler sur le vertige. Mais si jamais c'est des compétences que tu veux améliorer, en fait, c'est bien d'essayer des toutes petites choses. Je pense que la confiance en soi, ça dépend d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, ça passe par le « you can do it, you can do it », tu vois, très à l'américaine. Pour nous, les Français, ça sonne creux, en fait. Ça tombe à plat, on est là, c'est ridicule.
Ouais.
En revanche... je pense que pour les Français, c'est vraiment l'expérimentation. C'est pour ça que nous, à la School of Life, quand on fait un cours de confiance en soi, on fait du théâtre d'impro. Alors, rien d'inquiétant, on ne se lâche pas en arrière dans les bras d'un inconnu. Mais du théâtre d'impro, ça permet de faire un pas en avant. On ne sait pas ce qui va se passer. On voit que le monde ne s'effondre pas sur nous.
Tant tout n'est pas prévu.
On prend confiance, et on avance. Et un pas. Et c'est que des petits pas. Et pour moi, c'est grandir sa zone de confort par des tout petits pas. C'est vraiment le meilleur truc pour la confiance. Puis l'autre chose pour prendre des risques et avoir confiance aussi, c'est ne pas avoir peur. Parce que il y a le très joli talk de J.K. Rowling à Harvard le 5 juin 2008, où elle parle justement de la peur, et elle dit qu'elle n'avait plus de peur parce que sa pire peur s'était réalisée, mais qu'elle était encore vivante. Elle avait une petite fille qui l'adorait, une vieille machine à écrire, une grande idée, que si elle n'était pas allée au fond du fond, elle n'aurait jamais écrit Harry Potter finalement, parce qu'elle avait perdu son job, elle était très pauvre, elle était aussi pauvre qu'on peut être pauvre aujourd'hui en Angleterre sans être SDF. Et elle dit que le fait d'avoir connu sa plus grande frayeur s'est réalisé, que du coup ça l'a forcé à se transcender et à écrire.
Moi, en fait, c'est quelque chose qui me fait peur, de se dire que limite, on est obligé de passer par des moments très difficiles et des zones très sombres pour en fait pouvoir en ressortir quelque chose d'encore mieux et d'encore plus grand, parce qu'on n'a pas envie en fait de passer par là.
Mais on y passera tous, en fait. Moi, je pense qu'on aura plus à faire à l'échec dans nos vies qu'au succès, même si, évidemment, je ne le souhaite à personne. Mais quand on y réfléchit bien, on passe tous par des problèmes, des échecs ou des épreuves, tout simplement.
Ça
peut être un divorce, ça peut être un deuil. Moi, c'est un deuil qui m'a vraiment réveillée, qui a changé ma vie à 360 degrés. Et je souhaite à personne de connaître cette douleur. Mais en même temps, là, ça m'a affranchie des dernières attaches que j'avais, de la dernière peur, parce qu'effectivement je me suis dit, ok, il m'est arrivé, je pense, une des pires choses qui pouvait m'arriver sur Terre, c'est perdre la personne qui m'était la plus proche, et du coup maintenant, faut que je fasse, c'est que du plaisir et que vraiment j'ose être moi.
En fait, j'entends souvent ça, que ce soit dans des témoignages, dans des articles, dans des interviews, la confrontation à la mort, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, qui ferait réaliser en fait que on ne vit qu'une fois et qu'on n'a rien à perdre. Et c'est dingue, parce que j'ai l'impression que même si on se le dit, ce sera jamais pareil que si on le vit, en fait.
Ouais, on ne peut pas imaginer, en fait. Et encore une fois, je souhaite à personne. Moi, je n'avais jamais eu de deuil autour de moi, à part mes grands-parents, et c'est dans l'ordre des choses, donc rien de grave. Mais pas quelqu'un qui a le même âge que moi, que je connais depuis 15 ans, qui était à l'école avec moi, et qui, du jour au lendemain, part. Effectivement, il n'y a rien qui nous prépare à ça. Je pense qu'on est dans une société un peu... hypocrite, parce qu'on parle pas de la mort alors qu'on va tous mourir un jour, mais c'est un peu la mauvaise foi de Jean-Paul Sartre, on est obligé de l'avoir. On peut pas se réveiller tous les matins en se disant on va mourir un jour,
c'est sûr, ce serait même un peu
et donc pas, du coup on est obligé de faire semblant qu'on va jamais mourir, qu'on est immortel. Et c'est exactement ce que Sartre décrit dans L'existentialisme est un humanisme. On est obligé d'avoir cette espèce de mauvaise foi, en fait, de croire qu'on est là et qu'on veut dire, que notre petite vie veut dire quelque chose, etc.
Justement, ça me fait un bon parfait avec mes questions plutôt sur la littérature, parce que je sais que tu en es une grande adepte et que tu as toi-même écrit ton livre dont tu nous as parlé, Trêve de bavardage, qui est disponible à la FNAC ou sur Amazon. Moi, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que l'amour pour les mots, c'est perdu. Et qu'on n'a plus vraiment autant de reconnaissance quand on est auteur qu'autrefois, que les gens lisent moins, et qu'on a en fait très peu, tu vois, de rassemblements entre amis comme il pouvait y avoir autrefois, où on discute de littérature, où on échange. Qu'est-ce que tu mets, toi, en place pour essayer un peu d'entretenir cette flamme ?
Bon, alors, moi, j'ai fait des études de lettres, donc je pense que j'ai évolué dans un environnement assez particulier, avec des passionnés autour de moi. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les mots reviennent, justement. Il y a une espèce de regain d'intérêt pour les mots, notamment dans les entreprises aussi, en fait, après des années où on écrémait les budgets et les gens ne savaient plus tenir un stylo. J'ai l'impression que les entreprises, à commencer par les startups, mais aussi les grandes boîtes, ont à nouveau besoin de valoriser, justement, l'écriture, faire passer leur message, mais pas en langage qui coulole, SMS, et vraiment faire des sujets de fond. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a de plus en plus de copywriters ou quoi, des métiers qui se développent nouveaux en entreprise, qui n'existaient pas forcément, qui n'étaient pas valorisés à l'époque où moi, j'ai été diplômée, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette maîtrise de lettres modernes, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je sais que la littérature, elle fait partie de ma vie, et que souvent, c'est un excellent moyen de créer des liens avec quelqu'un, en fait, quand tout à coup, tu parles... c'est pas la culture confiture, mais tu fais allusion à un bouquin en disant « Mais moi, ça me rappelle tellement Claudel. » Et si la personne, elle réagit, elle dit « Dans le soulier de satin, Don Rodrigue ou le père jésuite, la première scène. Oh » ouais. Et tout de suite, ça c'est mon ami pour la vie.
Quelque chose.
Ça crée quelque chose, il y a un truc qui se passe, en fait. Donc du coup, et c'est pas du tout pour exposer sa science ou épater la galerie, mais c'est vraiment partager quelque chose qui va au-delà, parce que pour moi, la littérature, finalement, c'est très personnel.
Oui, c'est un partage d'émotions, en fait.
Et tout. Et puis après, il y a des book clubs qui se développent. Moi, j'en fais un dimanche soir, par exemple. J'ai invité plusieurs amis. Alors, j'ai choisi des amis, cette fois, qui sont très créatives. Il y a une couturière, il y a une calligraphe, il y a une designer de haute joaillerie. Mais elles ont toutes l'amour des mots et l'amour des livres. Elles n'ont pas forcément fait des études de lettres, elles ne sont pas forcément écrivaines. Mais en tout cas, elles ont cet amour pour les belles choses et les bons mots.
Oui, on n'a pas besoin d'avoir fait
les voilà.
Études pour.
Et donc, je vais leur demander d'amener chacune un livre et d'échanger les livres à la fin.
C'est un très bon concept. Qu'on devrait tous, à mon avis, dont on devrait tous s'inspirer, en fait, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Donc, toi, si jamais tu pouvais nous conseiller trois livres à lire absolument, ce seraient lesquels ?
Alors, ça dépend dans quel sens, pourquoi ?
Dis-nous juste trois, si jamais on te disait, bon, trois livres qui ont marqué ta vie et que tu devais offrir à trois de tes meilleurs amis.
Alors, il y aurait un livre, pas forcément de la grande littérature, mais il est excellent, sur la peur et l'audace, donc ça tombe bien avec ce sujet. C'est le livre de Elizabeth Gilbert, donc c'est une auteure best-seller, New York Times, etc., qui a écrit le livre Mange, prie, aime, qui est adapté au cinéma.
Pray, love, ouais.
Exactement, et elle a écrit un livre qui s'appelle en anglais Big Magic, mais il est paru chez Kalman Levy, et il s'appelle Comme par magie en français, et c'est Comme par magie, oser vivre une vie créative sans la peur. Et justement, elle parle de ce rapport à comment on peut chacun shaper, former sa vie à soi et pas la vie de quelqu'un d'autre. Et aller au-devant de ses peurs pour vraiment épouser la vie qu'on doit avoir. Il est merveilleux. Moi, il m'a sauvé la vie au moment très difficile que j'évoquais tout à l'heure. Je me suis dit, OK, je suis sur la bonne voie, en fait. Il ne faut pas que je lâche.
Ouais.
Donc, il y aurait celui-là. Ensuite, j'en ai plein des livres qui m'habitent. Ce serait peut-être Capital de la douleur d'Éluard. J'adore. Et un roman peut-être... y aurait le soulier de satin qui, moi, a changé ma vie aussi et qui me porte encore. Et je l'ai étudié en Cagne, donc j'avais 19 ans. Et encore aujourd'hui, il est toujours sur ma table de nuit. Il n'a jamais quitté ma table de nuit. Ça fait 20 ans qu'il
c'est
est sur ma table de nuit.
Tu le relis ou ouais. C'est juste un
je relis des passages. D'accord. Non, je relis des passages. Il est sur ma table de nuit, là. Et il y a des passages qu'à l'époque, j'avais 19 ans, je ne les captais pas vraiment parce que je n'avais pas forcément beaucoup vécu de choses et je ne les comprenais pas forcément. Et parfois, il m'arrive des choses dans ma vie où tout à coup, il y a une phrase qui résonne. Et je me dis, mais d'où sort cette phrase ? Et deux jours plus tard, trois jours plus tard, j'ai un éclair. Je me dis, mais c'est exactement Donna cette épée en avant. Et hop, je reviens au livre, en fait. Donc, c'est un livre qui
comme
me
si
suit.
Ta vie était liée un peu à ce
ouais,
livre. C'est magique. C'est la magie des mots aussi. Hein. La magie de la fiction.
Ouais.
On va passer, pour finir, en fait, à un petit questionnaire de Proust, mais revisité à la Louise Aubéry. Parce que, en fait, oui... Bon, alors, on va passer directement aux questions. Donc, d'abord, je vais te dire, quel est ton principal trait de caractère ? Tu dois répondre, en fait, directement.
Alors, je sais pas si c'est un trait de caractère. Je peux en dire deux, comme ça, tu couperas. Tu
ok.
Verras. La curiosité. L'énergie.
Ok.
Je sais pas si c'est un trait de caractère, l'énergie, mais c'est vraiment ça. Tout le monde me dit
ouais,
souvent que t'as une énergie.
Si, je pense vraiment que si. Qu'apprécies-tu le plus chez tes amis ?
Le respièglerie.
C'est beau. De quoi es-tu la plus fière ?
D'avoir eu le courage de quitter l'avenir confortable et tout tracé qui s'offrait à moi, et cette belle carrière qui s'offrait à moi dans la mode, pour créer le job de mes rêves et une vie qui me ressemble à moi.
Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné ?
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et c'est René Char. Et c'était l'épreuve de culture générale quand je suis rentrée à Sciences Po. Et c'est grâce à ça que j'ai eu le concours de Sciences Po.
Donc une citation porte-bonheur, encore une fois.
De René Char, poète et résistant.
Et quelle est ta définition du bonheur ?
C'est un peu cocasse parce que j'aime pas trop, moi, tous ces sujets de bonheur, bonheur au travail, bonheur à toutes les sauces. Je trouve ça un peu gadget et galvaudé. Mais ma définition du bonheur, ce serait une série de petites joies pures et d'allégresse.
Bien singulière, c'est beau. Et une dernière question que j'ai vraiment personnalisée à toi et à ta personnalité, parce que je pense que ça pourrait aider toutes les personnes qui nous écoutent. Si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie de développer un peu justement leur énergie, leur créativité, et qu'ils ne savent pas exactement comment s'y prendre, quels seraient les conseils que tu leur donnerais pour développer leur créativité ?
Je donne des cours de créativité, alors c'est facile. La première étape, c'est d'abord d'observer, de faire des expériences, faire des rencontres, prendre le temps de perdre du temps. Moi, je crois beaucoup à cette espèce de sérendipité, en fait. Tu cherches pas forcément, tu cherches quelque chose et finalement, tu trouves autre chose et c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est la première phase d'observation, rencontre, où tu ouvres le champ. Ensuite, c'est processer dans l'inconscient, prendre un peu de recul par rapport à tout ce que tu as recueilli. Et là, il y a un insight, une révélation, un truc qui va, une idée qui va émerger. Et ensuite, c'est la creuser, faire des brouillons, recommencer. Et puis ensuite, il y a toute la phase qui est la phase la moins glamour, mais c'est quand même, selon Flaubert, c'était 95% du talent, c'est la transpiration. C'est la phase où on peaufine. Alors, elle n'est pas glamour, elle n'est pas sexy. On en parle rarement dans les médias ou dans les films, mais c'est quand même... les gens qui réussissent le mieux, c'est quand même... On ne va pas se cacher, c'est des gens qui travaillent énormément, qui ont une force de travail énorme. Et donc, la dernière phase, c'est peaufiner et travailler.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Fanny, de t'être joint à nous pour cet épisode d'InPower. Où est-ce qu'on envoie les gens qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais, qui aimeraient avoir un peu justement de ton énergie ?
Alors, ils peuvent me suivre sur mes aventures rocambolesques sur Instagram. Mon nom sur Instagram, c'est Sassy Fanny.
Voilà, donc je mettrai le lien dans les notes de l'épisode.
Et sinon, il y a mon site internet perso qui est fannyog.org ou .com et le site de The School of Life Paris, theschooloflife.com.
Super, bah écoute, j'ajouterai ça aux notes de l'épisode. Merci beaucoup à toi, Fanny.
Merci, Louise.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça ne coûte rien et ça me soutient beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à en parler aux personnes que ce podcast pourrait aider ou inspirer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode d'InPower.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.